Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment se porte le tourisme religieux en Afrique et quels sont les moyens de le développer? Nous répondrons à ces questions au cours de cette émission et c'est dans quelques instants. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Nous parlerons aussi de transformation digitale des entreprises en Afrique. Comment façonner ces transformations en misant sur le numérique? Moussa Fofana, expert de la transformation digitale, interviendra sur ce sujet. Ce sera dans l'invité. L'autre invité, ce sera Alpha Barry. Il est senior advisor de la CIO d'Atos en charge des marchés en croissance. Avec lui, nous mettrons le focus sur cette transformation digitale, mais en ce qui concerne les gouvernements et les institutions publiques. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Parlons de tourisme en Afrique. On sait que le continent, malgré son potentiel énorme, représente à peine 6% du tourisme mondial, une part qui pourrait se renforcer davantage si un segment du tourisme était réellement activé. Et ce segment, c'est le tourisme religieux. Justement, parlons de ce tourisme religieux en Afrique avec Awa Djakhate. Elle est la directrice de Awa Amazing Collection, spécialiste du secteur touristique. Bonjour à vous, Awa Djakhate, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-on parler de tourisme religieux en Afrique?
Bonjour Omar, je vous remercie encore une fois de cette invitation. Oui, bien évidemment, on peut parler de tourisme religieux en Afrique. Le continent regorge de sites religieux et spirituels qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Et ce sont souvent des lieux de grande importance culturelle qui jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle des communautés locales. On parle non seulement de pèlerinage, mais aussi de la visite de lieux sacrés, des festivals religieux ou encore des retraites spirituelles.
Alors, je pense que c'est une belle entrée en matière. Quels sont aujourd'hui les exemples de tourisme religieux qu'on peut donner sur le continent?
Bien évidemment, un exemple marquant de tourisme religieux en Afrique, on peut parler du pèlerinage à Lalibela en Éthiopie. Lalibela est célèbre pour ses églises monolithiques taillées dans la roche, qui sont devenues des sites de pèlerinage très importants pour les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Au Maroc, on peut parler de l'exemple du Sénégal et de Fès. Fès qui est devenu un lieu très important dans le parcours spirituel de tout Sénégalais avec la confrérie Tijaniya. Je peux aussi parler de Touba, cette ville connue internationalement grâce à la communauté mouride qui organise chaque année un magal et qui reçoit des touristes sénégalais et non sénégalais du monde entier. Donc vraiment le tourisme religieux est très important, peut-être peu ou mal exploité au niveau de l'Afrique, mais c'est un tourisme qui existe.
Merci à vous, Awa, pour ces éclairages, mais une autre question s'impose. C'est un tourisme religieux qui existe donc, et certainement le cas du Maroc avec Fès est un bel exemple dans ce sens, n'est-ce pas, Awa Djakhate?
Bien évidemment, on ne va pas parler du tourisme religieux en Afrique sans donner l'exemple de Fès. La ville de Fès est devenue un acteur majeur du tourisme religieux en Afrique, au Maroc, notamment avec le marché sénégalais. Donc chaque année, il y a de nombreux Sénégalais qui viennent faire le pèlerinage à la Zaouïa Tijaniya. Et j'ai même appris qu'il y a des pèlerins qui viennent du Niger, du Mali, du Tchad. Et ça, c'est tout au long de l'année. OK, on comprend pendant le Ramadan, il y a une affluence. Aussi, pendant les 10 premiers jours de l'année musulmane aussi. On ne va pas oublier le festival de la musique soufie, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes du soufisme. Donc, c'est vraiment une ville qui joue un rôle très important dans ce tourisme religieux. Il ne faut pas oublier de mentionner que Fès est l'une des villes impériales les plus anciennes. Qui abrite aussi l'une des plus anciennes universités au monde, qui a été fondée par une dame. Voilà, il faut le mentionner, c'est important. La ville est aussi connue par ses madrasas historiques, ses mosquées et son patrimoine culturel islamique qui est très riche, d'où sa place en tant que ville de destination de tourisme religieux au Maroc.
Alors, une dernière question, un potentiel impressionnant donc, comme vous le dites, mais comment développer ce tourisme religieux en Afrique?
Pour développer le tourisme religieux en Afrique, il faut améliorer les infrastructures de transport et d'hébergement. Je pense que ça, c'est la condition sine qua non pour développer tout type de tourisme. Il faut faciliter l'accès aux pèlerins et aux touristes. Il faut renforcer les unités d'hébergement. Il faut les renforcer, mais aussi améliorer la qualité de ces unités d'hébergement. C'est très important. Il faut investir dans des campagnes de promotion ciblées pour faire connaître des sites religieux. Il y en a qui ne sont pas connus. Voilà. Il faut promouvoir les événements spirituels à un public beaucoup plus international. Il faut préserver le patrimoine parce que, par exemple, je sais que Tombouctou était beaucoup visité, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est dommage. Donc, assurer la préservation et la restauration de sites religieux pour maintenir leur intégrité et attirer plus de visiteurs. Il faut établir des partenariats entre les gouvernements, les communautés locales, les organisations religieuses, développer des initiatives de tourisme durable, créer des programmes éducatifs et des visites guidées pour informer les visiteurs sur l'importance historique, culturelle et spirituelle des sites religieux. Et bien sûr, sans sécurité, on ne peut pas faire un tourisme. Donc, il faut garantir la sécurité des visiteurs et offrir des services adéquats, comme par exemple les guides multilingues, des brochures d'information et des installations de santé et de secours.
Merci à vous, Awa Diakhaté, directrice de Our Amazing Collection, spécialisée donc dans le tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation et plaisir de vous retrouver une prochaine fois dans Coémergence.
Coémergence, l'invité.
Parlons à présent de transformation digitale des entreprises africaines. Comment façonner ces transformations en misant sur le numérique? Moussa Fofana, il est expert de la transformation digitale, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous, Moussa Fofana, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Baldé, je vous en prie, je vous en prie.
Alors, vous êtes actif dans ce domaine. Parlez-nous d'abord de vos activités dans le domaine de la transformation digitale.
Donc, je suis Moussa Fofana, nationalité ivoirienne, et je viens de créer un cabinet de transformation digitale, conseil en innovation et transformation digitale qui s'appelle Manaïka Consulting, basé à Paris, qui intervient non seulement sur des problématiques clients en France, mais également sur toute la zone Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, avant cela, j'ai exercé de nombreuses années au sein de différents cabinets de conseil, dont durant les 5 dernières années, un cabinet de conseil international qui avait une stratégie de développement Afrique. Et j'ai piloté cette stratégie de déploiement Afrique, justement, en structurant les activités, en initialisant les stratégies commerciales, en développant l'activité localement, en pilotant des projets, que ce soit au niveau des acteurs privés, mais aussi des structures publiques en Afrique autour de la transformation digitale. Voilà.
Excellent. Ben, vous êtes un expert donc du domaine, on tape donc à la bonne adresse, hein, à la bonne porte. Alors justement, aujourd'hui, où en sont les entreprises africaines quand on parle de transformation digitale?
Donc, au niveau de la transformation digitale, déjà, quand on parle de transformation digitale, il faut savoir que, tout simplement, parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui est assez utilisé, tout simplement, la transformation digitale, c'est utiliser des technologies numériques, justement, pour améliorer les performances des entreprises. Voilà, que ce soit les entreprises, les organisations. Donc, c'est utiliser tous les moyens que nous donne le digital aujourd'hui pour induire des améliorations et de la performance au niveau des entreprises. Mmh. Donc, globalement, quand on parle de transformation digitale aujourd'hui en Afrique, il faut savoir qu'elle a apporté énormément au continent dans tous les domaines. La santé, l'inclusion financière, l'agriculture et l'économie. L'économie, par exemple, selon les chiffres bien connus, on estime à peu près 180 milliards de dollars l'impact de la transformation digitale sur l'économie africaine à horizon 2025. Donc ça, ce sont des éléments importants.
Oui, c'est un poids important, ce chiffre que vous venez de donner. Alors, quels sont aujourd'hui les secteurs qui sont en pointe dans la transformation digitale des entreprises africaines?
Alors, en secteur en pointe aujourd'hui, nous avons de différents sujets qui sont en pointe. Alors, si on parle aujourd'hui du secteur privé, on a par exemple la cybersécurité. Mmh. Voilà, tout simplement. Si je vous parle aujourd'hui de la cybersécurité avec pas mal d'initiatives qui se déroulent sur le continent sur ce sujet. Voilà, la sécurité des données, la conformité réglementaire et au niveau des technologies. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, nous avons des structurations claires au niveau des choix des technologies, par exemple. Le cloud, donc on voit que de plus en plus d'entreprises, contrairement aux années précédentes, s'orientent vers les solutions cloud, justement, pour améliorer la flexibilité et réduire leurs coûts. Les outils de collaboration, par exemple, pour ce qu'on appelle de façon courante, la digital workplace. Donc, c'est des outils de collaboration pour justement améliorer la communication et la productivité de l'entreprise. Mmh. Un autre sujet qui est assez aujourd'hui courant et qui est très en vogue, c'est tout ce qui concerne l'analyse de la donnée, donc la big data. Donc, c'est tout simplement mettre en œuvre des solutions qui permettent d'analyser des grandes masses de données et de pouvoir en extraire justement des données intéressantes à vue de pouvoir prendre des décisions pertinentes pour le développement des entreprises.
Mmh. Alors, l'autre question qui s'impose, c'est que est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous êtes un acteur africain, panafricain, est-ce qu'il y a des acteurs africains qui offrent des solutions aux besoins en transformation digitale des entreprises africaines?
Alors oui, clairement. Aujourd'hui, au niveau de l'écosystème des acteurs impliqués dans la transformation digitale sur le continent, on a plusieurs types d'acteurs. On a d'abord les startups. On a les startups aujourd'hui, que ce soit au Kenya, que ce soit au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc. On a un certain nombre d'acteurs qui innovent dans des solutions. Je prends par exemple une startup M-Pesa. Aujourd'hui au Kenya, qui justement a permis de l'inclusion financière via ses services qui ont été justement un vrai élément d'innovation africain et qui ont été, cette innovation qui a même été copiée ou déployée dans d'autres continents. Voilà. Je prends par exemple en Côte d'Ivoire une fintech qui s'appelle Jamo. Jamo, c'est une fintech qui a mis en œuvre des solutions pour faciliter justement l'accès à la finance en ligne pour les Ivoiriens, avec une belle croissance, avec une levée de fonds de 14 millions de dollars en 2022. Donc on a ces startups-là qui font des choses assez intéressantes. À côté de ces startups, nous avons ce qu'on appelle les ESN, c'est les cabinets de conseil qui déploient des offres de services segmentées selon les secteurs d'activité. On a des grands groupes, on a Atos, on a EY, on a des cabinets aussi à taille moyenne comme Scorus, tout simplement au Maroc par exemple, Mobi Blanc, qui est un consortium qui fait des choses intéressantes, ou des types de cabinets à taille plus moyenne comme Manaïka, etc. Donc voilà, donc on a les startups, on a les gros cabinets de conseil à dimension panafricaine, on a aussi des cabinets, des acteurs locaux qui font des choses assez intéressantes, et ce, dans les différentes zones du continent.
Excellent, c'est encourageant en tout cas par rapport donc à cette transformation digitale. Merci à vous, Moussa Fofana. Je rappelle que vous êtes expert de la transformation digitale. Vous êtes aussi le fondateur donc de Manaïka, actif dans ce domaine de la transformation digitale. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Baldé.
Et nous allons continuer de parler de cette transformation digitale, mais en mettant le focus cette fois sur les gouvernements et les institutions publiques. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Alpha Barry. Il est senior advisor de la CEO d'Atos, donc en charge des marchés en croissance. Alpha Barry, merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci, merci infiniment de m'avoir invité.
Alors, quand on parle de transformation digitale pour les institutions publiques et le gouvernement, de quoi parle-t-on?
Alors, les sujets de transformation digitale pour les gouvernements, je pourrais les résumer en deux parties. La première partie concerne tout ce qui est modernisation de services qui sont rendus aux citoyens. N'oublions pas que l'objectif de responsables gouvernementaux, c'est d'abord d'être au service des populations et d'être au service des citoyens. Donc la digitalisation dans les organisations publiques ont cette partie qui est importante, qui est de permettre à tout citoyen, par exemple, d'obtenir de façon simple ses papiers d'identité, d'obtenir de façon simple ses déclarations fiscales, d'obtenir de façon simple ses preuves d'identité. Donc, je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples sur cette partie qui est de faciliter, encore une fois, la vie des citoyens parce qu'il ne faut pas chercher très loin. L'objectif, c'est d'abord de permettre aux gens d'avoir plus d'efficacité et plus de facilité dans leur vie de tous les jours.
Mmh. Alors,
ça, c'est la première partie. Mmh. La deuxième partie des aspects de modernisation des organisations publiques, c'est l'amélioration de l'efficacité de la gestion elle-même de l'administration publique. Par là, j'entends tout ce qui est notamment amélioration de la gestion elle-même, la réduction des coûts de fonctionnement de fonction publique, et notamment aussi par l'amélioration de tout ce qui est recettes en termes de fiscalité, de façon plus efficace, sans avoir la nécessité d'avoir énormément de coûts pour pouvoir collecter des impôts qui finalement ne couvrent pas les coûts qui sont engendrés. Donc c'est ça, si vous voulez, les deux grandes parties de façon un peu simplifiée. La première, c'est toutes les applications que l'on peut développer pour faciliter la vie des citoyens. Et la deuxième partie, c'est l'amélioration de la gestion elle-même, réduction des coûts, optimisation des coûts, des organisations publiques elles-mêmes.
Mmh. Alors, je pense que c'est très intéressant, hein, ce tableau que vous venez de nous dresser. Alors, sentez-vous une envie, une volonté réelle, voire plus même, sentez-vous des exemples réels d'engagement des gouvernements dans cette transformation digitale?
Alors, j'ai travaillé pour Atos pendant longtemps, et désormais, j'étais le directeur général pour l'Afrique, et désormais, j'ai un rôle de conseil auprès de mon entreprise, mais sachez que mon expérience, en tout cas ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que quasiment dans tous les États africains, on a une véritable volonté de renforcer les projets de digitalisation, de transformation digitale dans les pays. Alors, encore une fois, on peut dire oui, mais c'est de l'affichage, c'est plutôt de l'affichage simplement sans avoir quelque chose de fond. Mais en réalité, je peux vous dire, on peut citer plusieurs exemples d'administrations publiques qui ont lancé des projets structurants. Je peux citer peut-être un cas sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est l'administration du Togo, qui a lancé un projet extrêmement ambitieux qui consiste à pouvoir octroyer à chaque citoyen togolais une identité numérique biométrique pour permettre à tout le monde accéder aux services publics dans le pays, puisque vous savez, une majorité, parfois dans certains de nos pays, une majorité de gens ne disposent pas de pièces d'identité qui leur permettent, par exemple, d'acheter une carte SIM pour avoir un téléphone portable. Mmh. Donc, pour moi, pour répondre à votre question, il y a une véritable volonté, je pourrais citer plusieurs autres pays sur lesquels, dans lesquels on a enclenché des projets significatifs et qui ont là aussi vocation à répondre aux deux objectifs que je citais en premier, c'est-à-dire faciliter la vie des citoyens et améliorer la productivité et la gestion de...
Merci à vous, Alpha Barry. Je rappelle que donc vous êtes au sein de la multinationale Atos, dont vous avez dirigé pendant plusieurs donc, années. Donc les activités en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi. Bonne journée à vous aussi qui nous écoutez. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne suite de programmes sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence dans Medion Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medion.